Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler avec Denis Martin Chabot. On va parler de la fierté littéraire et on l'aura au téléphone dans un instant. Ensuite, restez avec nous parce qu'on parle de fleurs. On parle de fleurs avec Alexandra Truchot et la ferme florale Alex à la campagne. Pourquoi les fleurs, comment les fleurs et toute la beauté de ce que ça exige et les saisons au Québec aussi. Donc pour l'instant, on part en musique avec Paul Carniello qui nous chante « L'amour est pour les courageux ».
Solitaire, la gloire est pour la tête d'affiche.
Denis Martin Chabot, l'amour est pour les courageux. Est-ce que tu es courageux, toi?
Ah, mon Dieu, oui, je ne sais pas si sortir dehors dans cette belle température caniculaire, ça prend beaucoup de courage. Alors, peut-être que je serai courageux tout à l'heure, oui.
Alors, Denis Martin, comment se passe la fierté littéraire?
Ben, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Nous avons eu une superbe année, festival pour Montréal, ce qu'on fait, la fierté littéraire quand même fait tout le Québec. C'est très, très bien passé. Nous avons fait notre festival en hybride cette année, c'est-à-dire devant un public restreint où on devait s'abonner, s'inscrire et puis devant les caméras. Et ça a très, très bien fonctionné. On est très contents des résultats. Donc là, maintenant, il faudra penser l'an prochain comment faire les choses. Je sais qu'il y aura toujours une diffusion de ce qu'on va faire. On a découvert qu'on avait des auditoires que nous n'avions pas avant la pandémie. Des gens qui n'habitent pas Montréal, qui sont ailleurs dans le monde, en Afrique, en Europe, qui nous suivaient. Parce que, tu sais, quand on met les vidéos sur YouTube, ben, c'est même si c'est en direct, c'est pour tout le temps après ça. Et on voit nos auditoires d'aller les 400, 500 personnes. Alors, on est très content de ça.
Quel a été, parce que justement, quand tu parles de ça, la façon dont les gens suivent, enfin, c'est pas la façon, mais les gens qui suivent d'habitude, qui venaient, qui sont d'ici, qui viennent, qui suivent tout ça, et puis ceux qui arrivent, est-ce qu'il y avait des différences de réception? Comment ils ont trouvé, comment ils ont réagi à ça?
Ben, en fait, il y a des gens qui ont certainement trouvé difficile de participer à nos événements en présentiel parce que les gens devaient s'adapter aux mesures en place. Alors,
oui.
C'est clair que, on dit aux gens, vous pouvez vous asseoir une fois assis, vous pouvez retirer votre masque, mais c'est sûr que là, il n'y a pas la même ambiance, on n'est pas avec une gang d'amis.
C'est moins facile.
C'est moins facile. Et puis surtout que nous, cette année, on s'est rendu compte que l'endroit où nous étions, depuis quelques années, on faisait beaucoup de nos événements au bar Le Cocktail, n'est peut-être plus approprié pour ce dont nous avons besoin. D'abord, en termes d'espace, puisque nous allons diffuser pour tout le temps, ben, ça prend de l'espace pour les caméras. Ça prend aussi de l'espace.
Ah oui, c'est
pour,
vrai.
Oui, et ça prend beaucoup d'espace. Ça prend aussi au niveau du son. Il faut être capable de mieux contrôler le son, ce qui n'est pas toujours facile à faire dans un milieu comme le bar. Nous avons aussi l'interprétation visuelle qu'on offre maintenant à nos événements. Alors, ça aussi, ça prend de l'espace. Alors, l'un dans l'autre, on va devoir commencer à regarder où est-ce qu'on va s'installer dans les années à venir, puisqu'il y aura aussi plus de public. J'ose croire qu'en 2022, on va pouvoir retourner à un semblant, en fait, même, j'aimerais bien qu'on retourne à une normalité au niveau des spectacles, si tout le monde finit par se faire vacciner et que les choses, qu'il n'y a pas un 18e variant rendu à là. Et puis, voilà, ça fait partie des choses à songer. Mais au-delà de ça, au niveau du contenu cette année, nous étions très fiers d'avoir fait connaître des auteurs, des autrices, qui peut-être n'étaient pas connus, mais qui méritaient de l'être. Je pense à Shane Michael, l'auteur bispirituel de Mi'kmaq. Nous avions Laura Payan, qui était notre une autre autrice, une autrice que nous ne connaissions pas, mais donc qui était une découverte pour nous.
D'accord.
Je pense aussi à certains livres qu'on a découverts cette année.
Alors, au fait, je m'excuse, mais quand tu en as parlé la dernière fois, tu as parlé de ce concours, et quel est le livre qui a été élu gagnant?
Ah,
qu'on l'a pas annoncé à la radio.
Oui, La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. Il faut dire que c'est le livre coup de cœur de beaucoup de personnes. Roman auto-fictif de Gabrielle Bouliane-Tremblay, de parcours de vie d'une jeune femme, d'une enfant qui réalise qu'elle est une femme et donc doit faire cette transition. On parle pas d'une transition chirurgicale à ce niveau-ci, on parle d'une transition dans sa vie. Alors ça c'est le livre qui a remporté. C'est le livre Coup de cœur, hein, qui est publié aux éditions de la Peuplade. Mais il y a eu d'autres. Les autres livres ont tous été gagnants. Je pense à Johnny Appleseed de Joshua Whitehead, un roman très coup de poing d'un jeune homme bispirituel aussi, au Manitoba. Ça, c'est une traduction quand même de l'anglo-français, mais on a beaucoup aimé. Et puis, il y avait Les Falaises aussi, Ah, mon Dieu, c'est fou, les noms me manquent et j'entends mon chien qui me jappe.
Alors, désolé d'avoir... Mais oui. C'était parce qu'on n'avait pas, présenté...
Il venait du Champlain, et puis l'autre, c'était Désormais ma demeure de Nicolas Dawson, qui était super bien aussi. Donc, on avait de très, très bons livres à proposer cette année, à tous les niveaux, là, pour dans cet événement-là que les autres événements. Ça a été intéressant. On a aussi innové, on a offert un espace sécuritaire pour les gens qui ne sont pas à l'aise de lire de leurs textes devant un public, mais qui veulent faire en petit groupe, pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent. Ça peut être parce qu'ils ne sont pas sortis du placard, qu'il y a certains... Il y a peut-être certaines personnes qui ne savent pas qui elles sont. Parce que la sortie du placard, hein, ça revient, c'est un thème qui revient dans l'actualité de littéraire. Parce que si on pensait que c'était un peu désuet de parler de la découverte de soi quand on est un homme gay, ben là, il y a plusieurs autres identités, qu'elles soient d'affirmation d'identité, affirmation de genre ou affirmation d'orientation sexuelle, qui se développent. et qui était là avant, mais qui commence à se faire entendre. Et là, c'est un tout nouveau regard sur le coming out, sur la découverte de soi. Et ça redonne un peu des lettres de noblesse à cette thématique-là. On a ouvert des espaces, donc pour des gens qui ne sont peut-être pas prêts à faire ce coming out, d'autres espaces pour des gens peut-être qui ont des intersectionnalités qu'on appelle d'autres marginalisations ou facteurs de marginalisation, ne serait-ce que d'appartenir aux communautés qu'on appelle PAN-DC ou BIPOC, qui donc personnes autochtones, noires ou de couleur. On a aussi ouvert un espace trans et non-binaire. Donc des soirées qui ne sont pas uniquement dans ces deux cas dédiées à ces personnes-là, mais qui sont organisées et présentées par ces personnes pour que nous, tout le monde en général, les découvrions.
D'accord. C'est une bonne chose parce qu'après tout, on peut dans un livre dire notre vérité et vouloir se cacher derrière un nom qui ne permet pas de retrouver vraiment l'auteur ou de le lire en public. Donc c'est aussi le droit qu'on en a dans ces choses-là.
Tout à fait.
Écoute, Denis Martin, on va se faire une petite pause musicale et puis on va revenir après. Et puis tu vas nous parler des moments forts qui sont déjà passés ou des moments forts à venir.
Oui, aussi. Il y a des choses à venir très importantes.
On en parle dans un instant. Là, on va partir en musique avec Nicolas Jules qui nous chante « Mort aux photocopieuses ».
Il faisait trop beau pour que ce soit vrai, mes souliers trempaient dans le jaune. Il faisait trop beau sur la ville en bois, se posaient des oiseaux à faune. Mort aux photocopieuses, mort aux photocopieuses, mort aux photocopieuses. Mort aux photocopieuses. Tout se ressemblait, le jour et la nuit, les passants plus gris que les murs. Tout se ressemblait, les mots étaient mous, qu'ils soient de cris ou de murmures. Mort aux photocopieuses. Mort aux photocopieuses. Photocopieuses, mort aux photocopieuses. Jamais elle ne s'allume. Tu existes peu et dans le courant d'air des sentiments, je m'enrhume. Mort aux photocopieuses. Mort aux photocopieuses. Mort aux photocopieuses. Mort aux photocopieuses.
Alors Denis Martin, nous revenons et comme me le disait si bien Maurice hors antenne, il y a aussi des moments phares.
Ah oui.
Là-dedans. Et donc on va en parler. Donc on t'écoute.
Oui, ben, donc, outre le combat homo, qui est quand même, nous, on dit toujours, c'est l'événement phare de Fierté littéraire, parce que c'est un événement qui fait vraiment notre renommée depuis quelques années. Mais il y a d'autres événements forts et phares. Le gala, on fait toujours un cabaret littéraire à chaque année depuis plusieurs années, depuis 10 ans pratiquement, où on, cette fois-ci, c'était animé par Barbada. Au cours de cet événement-là, bien, on a divulgué la gagnante du premier prix Mario Landerman. Prix littéraire Mario Landerman. On a renommé notre prix au nom de Mario, qui est décédé en octobre. Mario était un ami de Fierté littéraire, journaliste, chroniqueur littéraire de Info Culture. En fait, il fait plein de trucs, Mario. Ah, pardon, je dis Info, c'est Zone Culture, pardon. Et qui a même fait partie de notre jury pour le concours littéraire. Et on a voulu souligner son apport à nos communautés en renommant notre concours littéraire, donc le prix Mario Landerman. Et la première personne qui a remporté ce prix, c'est Perrine Leblanc, avec un fabuleux texte. La thématique cette année, c'était « Les mots qui démasquent ».
Oui.
C'est un petit clin d'œil à l'actualité et aussi donc à ce renouveau là, au niveau du coming out, de la découverte de soi. Très, très, très belle soirée littéraire. On a lu les textes des 6 finalistes et tout ça. Barbada de Barbade animait. Et donc, ça, c'était un élément fort. L'autre élément fort, on en avait un petit peu discuté, toi et moi, la journée même, le 9 août, si tu te rappelles.
Oui.
C'était donc le grand TFH littéraire, qui a été aussi un grand succès pour nous. On ne s'attendait pas à plus d'une trentaine de personnes, étant donné la COVID. On a eu 40 personnes. La salle pouvait accueillir 40 personnes.
Ah, ben écoute.
Alors, on était très contents. Évidemment, c'est pas un événement qu'on a mis en ligne. On comprend par le terme grand effeuillage qu'il y avait de la nudité. Certains auteurs, autrices se sont présentés sur scène dans leur plus petit apparat. C'est-à-dire même sans apparat. Et n'avaient que leurs mots pour se défendre. On rigole, mais c'est un événement qui était très touchant, pour les personnes qui l'ont fait, en tout cas, moi, je peux dire que pour m'être présenté sur scène dans ce numéro que j'avais préparé, ça a été très touchant et très instructif pour moi. Je suis très content de l'avoir fait. Alors ça a été des grands événements au cours de notre festival cette année. Très, très content. 9 événements. On a voulu en faire 10 pour 10 ans, mais un événement qu'on n'était pas en mesure de présenter pour toutes sortes de défis qui se présentaient à nous cette année.
D'accord.
On a dit, bon, ben on fera peut-être cet événement-là l'an prochain. Cela dit, il y a d'autres choses qui s'en viennent pour Fierté littéraire. Nous allons, outre publier les meilleurs textes soumis lors du concours littéraire de 2021, nous lançons un nouvel appel à texte, celui-ci totalement hors série, qui s'inscrit dans un programme que nous avons mis sur place avec Justice Québec, le bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
Oui.
Il s'agit d'un appel à texte sur la violence dans les relations de couple, sur les personnes des diversités d'orientation sexuelle et d'affirmation de genre. Et d'ici le 1er octobre, les gens doivent nous produire un texte sur cette thématique-là dans les relations, donc je parlais difficiles entre les personnes de LGBTQIA+. On pourrait être dans les textes, dans les termes, dans les lettres. Et donc, d'ici le 1er octobre, minimum 1000 mots, maximum 1500 mots.
Ah.
Et on annoncera les gagnants, probablement les finalistes, probablement au mois de novembre. Et je crois qu'on annoncera le ou la gagnante de la bourse de 1000 $ au début du mois de décembre. Puis, il y aura publication aussi de ce recueil. Donc, c'est vraiment un beau projet. On est content de le faire. Dieu sait que la violence dans les relations de couple, c'est un sujet tabou. Ça l'est d'autant plus quand on est dans une situation de personnes marginalisées ou minoritaires. On a peut-être moins de services ou moins de façons d'en parler. Alors, on s'est dit que par la littérature, ça pourrait aider à mieux comprendre ce phénomène ou à mieux, comment je pourrais dire, mieux se guérir, si on peut se guérir de tout ça. Ouais.
Ben, écoute.
On a tout plein de projets. Je peux te dire ce qu'on a aussi pour, puisque nous en allons vers l'automne, vers l'hiver, peut-être le retour d'une autre vague de COVID, bien pour nos personnes âgées des communautés de LGBTQIA+, on a organisé un cercle de lecture en ligne qui aura lieu tous les mois jusqu'au mois de février, et puis des lectures au bout du fil. Donc, des gens vont recevoir des appels, c'est sûr qu'il faut qu'ils s'inscrivent, évidemment, et il y a des auteurs, des autrices, des personnes qui lisent beaucoup, qui vont lire des textes à ces personnes à l'autre bout du fil pour les sortir de l'isolement. Il n'y a rien de mieux que la lecture, quoi.
C'est une bonne chose. En plus de ça, de toute façon, ça aura ouvert sur un nouveau public et sur une manière de faire qui n'était pas la vôtre jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de filmer et d'offrir plus loin que le cercle de Montréal et des gens qui habitent au Québec.
Tout à fait.
Donc, c'est déjà important. Comment c'est passé pour toi il nous reste quelques minutes, si tu veux bien en parler. Est-ce que ça s'est déjà passé, le moment où les gens venaient faire de l'écriture sur toi?
Oui, c'était donc le grand FH littéraire. Alors, pour expliquer un peu le contexte, quand les gens entraient dans la salle, je m'étais installé en plein milieu de la salle. Et là, c'était drôle, j'aurais porté un masque blanc pour cacher mon visage, mais juste pour que les gens ne voient pas moi, mais voient juste un corps sur lequel on inscrit toute la douleur qu'on a reçue. Alors, on demandait aux gens d'inscrire des mots d'homophobie qu'ils ont reçus dans leur vie ou qu'ils ont entendus. Alors, j'avais un masque tout simplement de procédure, et puis, les gens inscrivaient. Et je dois dire que chez certaines personnes, ça devait être certainement un peu libérateur, parce que j'avais l'impression qu'il m'écrivait avec un couteau. Là,
ah, parce oui.
Que c'était... ah oui.
Ils mettaient toute la force de leur colère dans le crayon qu'ils tenaient, c'est ce que tu veux dire?
Oui.
Oui, d'accord.
Oui. Et c'est très inconfortant, d'ailleurs, je dois dire, parce que c'est sûr que les gens entrent dans ma bulle. Je le dis, là, je suis complètement nu dans la salle. Alors, c'est sûr que les gens rentrent complètement dans ma bulle. C'est très invasif. Mais en même temps, je me dis que c'est la seule façon que je vais ressentir la douleur des gens dans la salle et de ressortir dans le slam que je fais avec. Parce qu'une fois que c'est terminé, donc on commence la représentation, je monte sur scène et j'ai un slam sur l'homophobie, et d'ailleurs que j'ai intitulé Homophobie, A-U-X-M-O-T-S, phobie. Alors,
tu nous le feras une prochaine fois, puisqu'on arrive dans la fin de l'entretien, mais c'est vraiment très intéressant, puis ça a dû être un bel exutoire pour plusieurs personnes.
Oui, c'est très émouvant pour les personnes et pour moi aussi. Et oui, si je le fais en studio, c'est clair que je vais rester habillé. Là, tu sens plus une personne qui me verrait, ou si je le fais au téléphone, c'est encore mieux, je suis tout seul chez eux avec mon chien, qui en a déjà vu des pires que ça.
D'accord. Non, pas en studio, s'il te plaît. Mais bon, restons simples. Mais le slam peut être récité tout de même. Ce sont les mots qui ont de l'importance à ce moment-là.
Oui,
merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis ça a été un beau moment. Il y a encore des choses qui se continuent. Et puis, ça, moi, ce que j'en retire de tout ça, c'est que ça a fait de l'ouverture sur une autre manière de faire, sur de la créativité nouvelle. Pour en parler encore plus. Voilà.
Tout à fait. Ben, gros merci à toi.
Merci Denis Martin, et puis à bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Alors, on va partir en musique avec Kabadzi qui nous chante « Voudrais ».
Normal, je n'en veux pas. On voudrait, on ne l'est pas. Jour banal, je veux cinéma. Je passe devant les vitrines, je suis pas prêt de finir dedans. Tout mon noir qui se dessine, je suis encore là, je me demande comment j'ai résisté au casting. Je reste loin du 1%. On part tous de la même espèce, alignés dans la même pièce, de la place pour un. La seule idée, finir dernier, c'est tout percer. Puisque dehors, c'est tout cassé, c'est qu'on pense trop. On cherche du regard, les gens qui comptent, salaud starlet qui brille facile. Y'a trop de nombril, bap tout fragile. Je vais faire ferme et idée noire. J't'ai la clé au moins ce soir. Je veux m'asseoir, on voudrait te revoir, mais ça fait grève. Prendre une douche, je sors du coffre. Toute la pile coule sur mon torse. L'amour propre est un combat, c'est tout ce qui compte, y'a rien au-delà. vie normale, je n'en veux pas, je n'en veux pas. On voudrait, on ne l'est pas. Jour banal, je veux cinéma, je veux cinéma. Je voulais bâtir empire, je voyais beau cadeau à venir, corps à fond dans la bagarre, en finir. Moins de caméras, des camélias, quand elles se baladent, elles volent des strass, et puis du sexe derrière les parcs. Elle voit la vie sans danger, en liberté, faut du papier, je veux du blanc et du violet, tellement serré, régler mes comptes au monde entier, faut pas que je lâche. Encore une marche, je veux pas finir sous une bâche, trace à la crème et dame s'arrache. Je vais faire faire mes idées noires, j'ai la clé au moins ce soir. Je veux m'asseoir, on voudrait te revoir, mais ça fait grève. Prendre une douche, je sors du coffre, toute la pile coule sur mon torse. Le désir est un négoce, tout est à prendre, toi t'es proche. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. On voudrait, on ne l'est pas. Jour banal, je veux cinéma, je veux cinéma.
Et voilà, donc pour la prochaine demi-heure, vous savez ce que c'est que le métier de fermière fleuriste ? Eh bien, on va apprendre ça avec Alexandra Truchot qui va nous parler de la ferme florale Alex à la campagne. Car Alex à la campagne fleurit votre quotidien, vos événements, votre milieu de travail avec des fleurs de son propre champ dans les cantons de l'Est. Donc restez avec nous, on revient tout de suite avec Alexandra. Ça va être encore un moment très intéressant. À tout de suite.
Vous pouvez écouter Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah.
Home sweet home, mon royaume en bon.
Alors nous venons d'entendre Sao, Home Sweet Home, et maintenant, comme annoncé dans la première demi-heure, eh bien nous sommes avec Alexandra Truchot pour parler de la ferme florale Alex à la campagne. Bonjour Alexandra.
Bonjour Arlette.
Ça va bien? Alors on se demandait justement, je posais la question en première demi-heure et on attend la réponse, parce qu'on va commencer par ça. Le métier de fermière fleuriste, qu'est-ce que c'est?
Bon, ben en fait, c'est quand même long. Ben, je vais faire la réponse courte.
Oui.
Parce que c'est beaucoup de choses, mais en gros, c'est que je suis comme une fleuriste, mais au lieu de commander mes fleurs de l'étranger, de grossistes, eh bien, je cultive moi-même mes fleurs. Donc j'ai mon champ de fleurs et puis j'ai juste à aller cueillir mes fleurs quand j'ai des commandes là, d'arrangements floraux.
Quel bonheur.
Événements.
Quel bonheur. Alors justement, en lisant sur vous et puis ce que vous avez écrit, je me suis rendu compte que vous avez parlé de fleurs locales et éco-responsables pour faire plus attention à l'environnement. Et je me suis rendu compte, donc après être lancé sur un autre sujet sur lequel vous avez écrit, c'est-à-dire que les fleurs, les industries des fleurs sont toxiques pour la planète en fait.
Oui, c'est vraiment en fait fou quand on commence à regarder un peu tout ça, parce qu'on se dit, ah, une fleur, c'est tellement enfin le reflet de la nature, de la beauté de la nature, mais en fait, ben l'industrie a vraiment dénaturé ça. Et puis les fleurs, elles viennent de très, très loin déjà, donc d'Amérique latine, d'Afrique. Et puis, comme elles sont cultivées vraiment à grande échelle, ben elles sont ils utilisent beaucoup de pesticides, de produits chimiques pour pouvoir faire en sorte qu'elles ne soient pas attaquées par les insectes, qu'elles soient les plus belles pour le transport aussi, parce que quand on sait que il y a au moins une dizaine, une journée complète de transport avant qu'elles arrivent aux fleuristes. Faut qu'elles tiennent tout ça, donc c'est bourré de produits chimiques.
Ben voilà, et c'est puis, ce que vous disiez.
Ouais. Oui, et en plus, il y a tout l'emballage autour de ça. Les fleurs sont emballées dans du plastique et tout ça s'est jeté à la poubelle. Fait que c'est très, très polluant. Donc, on essaie de changer un peu ça là, ici au Québec avec les autres fermières fleuristes. Là, parce que je suis pas la seule, heureusement.
Ben c'est bien parce que en vous lisant, je me suis rendu compte que, je le savais pas non plus, qu'on mettait un produit quand on fait venir des fleurs de loin qui en plus refoule les abeilles alors qu'on en a besoin, quoi, puisque c'est pour qu'elles viennent butiner justement que les fleurs existent aussi.
Oui, c'est ça. Ben, c'est, ils cultivent les fleurs comme ils peuvent cultiver des légumes, donc avec des produits chimiques qui sont nocifs pour les insectes. Mais ça ne fait pas la part des choses genre « Ah oui, on veut des abeilles, mais on ne veut pas les insectes. » C'est tous les insectes là, qui sont tués par ce produit-là. Donc, oui, c'est assez contradictoire, mais donc on essaie de changer ça. Puis au Québec, ben la fleur, elle est vraiment cultivée d'une autre manière là, que dans les autres pays, avec beaucoup plus de respect pour la nature.
Parce que là, quand vous cultivez les fleurs, donc on parle aussi de saison.
Oui.
Donc oui. Vous avez des fleurs par saison.
C'est ça, fait qu'on respecte plus les saisons parce que c'est sûr que, par exemple, ben, la fête la plus révélatrice de ça, c'est la Saint-Valentin qui est en plein mois de février.
Oui.
Ben, c'est ça, quand vous avez des roses au mois de février, ben, forcément, ben, c'est pas de saison.
Ah ben oui, c'est ça.
Et elles viennent de très loin. Donc, nous, ben, en tant que fermière fleuriste, je fais le choix de ne pas avoir de fleurs de décembre à mars. Et puis de travailler juste avec des matériaux séchés ou avec du sapin, des conifères. Mais sinon, on respecte vraiment plus les saisons. Puis même à travers l'été, donc ben du printemps jusqu'à l'automne, chaque mois, j'ai des différentes fleurs vedettes. Fait que j'ai pas tout le temps les mêmes fleurs. Fait que c'est vraiment des saisons différentes presque à chaque mois, là. Mais moi, je trouve ça magnifique, mais
oui.
Faut s'habituer à cette façon de faire. C'est qu'on peut pas avoir tout le temps. Les clients peuvent pas me demander des pivoines tout le temps. C'est juste au mois de juin.
En même temps, j'ai envie de dire que vous faites notre éducation sur, parce que l'habitude qui fait que, là on parle des fleurs, mais ça peut être aussi valable pour les fruits ou pour autre chose, l'habitude qu'on a de manger tout à toute époque nous fait oublier un petit peu le rythme des saisons, et c'est une bonne chose que de le réapprendre jusqu'à travers les fleurs.
Oui, puis en plus, si je fais justement la comparaison avec les fruits et légumes, quand on se rend compte, quand on les mange vraiment en pleine saison, ils sont tellement meilleurs. Puis là, après, c'est genre dommage de manger une fraise ou une tomate qui est pas aussi bonne.
Ben oui.
Mais les fleurs, c'est la même chose. Elles sont tellement belles quand elles sont vraiment de saison puis qu'elles viennent juste d'être cueillies. Alors, c'est dommage là, d'essayer de trouver des fleurs hors saison qui n'ont pas cette même beauté-là.
Alors,
on en profite plus quand on attend les saisons.
Et vous, petite fille, vous étiez posé la question de savoir pourquoi dans le jardin de vos grands-parents c'était magnifique, magique, et puis que quand vous rentriez des fois chez des fleuristes, ça n'avait plus la même vie.
Oui, oui, et en effet, ouais, je comprenais pas la différence là, de la légèreté, tout ce qui était tellement beau et naturel. Par exemple, moi, j'étais vraiment fascinée quand j'étais petite d'aller visiter les jardins botaniques quand je voyageais avec mes parents. Il fallait aller visiter le jardin de la ville où on était. Et je trouvais ça tellement beau, tellement magnifique. Et puis, je voulais être fleuriste, mais à chaque fois que je rentrais chez un fleuriste, j'étais tout le temps un petit peu déçue. Je ne comprenais pas. J'aimais pas vraiment ça, les roses et les fleurs un peu plus rigides. Mais c'était trop compliqué pour moi de comprendre ça. Puis ça m'a pris du temps. Et c'est vraiment juste là, il y a quelques années, là, que j'ai pris la conscience de tout ça, qu'en fait, on pouvait justement cultiver nos fleurs, même au Québec, et que c'était tellement plus magique.
Ah oui, puis c'est formidable d'apprendre. Est-ce que la clientèle que vous avez, que vous souhaitez d'avoir de plus en plus d'ailleurs, comprend très facilement le rythme des saisons, les moments d'hiver où ça se passe autrement, où on n'a plus les fleurs qu'on voudrait avoir au printemps, mais qu'il faut savoir attendre, patienter. Peut-être que le mot patience est le mot le plus difficile à,
ouais,
à faire.
Ben je veux dire, ça change de plus en plus. Quand j'ai commencé, là, j'ai commencé à 4 ans, et puis ça apparaît, c'est pas il y a si longtemps, mais les mentalités ont vraiment changé en 4
D'accord.
ans. Il y a eu un gros boom là, avec la pandémie, tout ça, les gens se sont tournés vers tout ce qui était local. Puis pendant la crise, justement, là, le début, l'année dernière, bien, il y a eu, les fleuristes ne pouvaient plus travailler parce que les fleurs ne pouvaient plus venir de l'étranger. Tout le monde s'est rendu compte à quel point les fleurs venaient de l'étranger.
Ah oui. Mais c'est une bonne chose, hein. Il y a plein de bonnes choses qui se sont déroulées parce que ça nous a appris à voir les choses et puis peut-être à ralentir aussi notre rythme.
Oui, mais je pense, à date, j'ai vraiment à part peut-être au début, j'avais de la sensibilisation à faire, mais depuis 2 ans, là, j'ai toutes des clients en or qui comprennent vraiment, vraiment bien, puis qui justement, ils trouvent ça magnifique là, d'être surpris aussi, de pas savoir c'est quoi qu'ils vont, ils vont avoir comme fleurs, mais toujours leur couleur et tout ça. Mais même les mariages, les gens m'avaient dit, les mariages, tu vas voir les mariés, là, elles ont des idées très précises, mais à date, j'ai vraiment eu des mariés qui ont été incroyables, puis que tout le temps que je leur fournis la couleur de leur choix, ils sont juste contents d'avoir quelque chose de naturel et écologique.
Ah ben, c'est vraiment très beau. On va continuer à en parler, Alexandra, mais on va faire une petite pause musicale. On va partir avec Robert Charlebois qui nous chante « Heureux en amour » et on revient tout de suite après pour continuer tout ça.
Parfait.
Il y a du monde qui font le tour du monde en première classe où il n'y a pas de monde. Du monde qui ont le tour avec le monde. Du monde qui joue des tours au monde. Du monde choqué qui claque la porte pour aller faire le tour du bloc. Puis il y a du monde qui aime leur blonde et qui sont heureux en amour. Heureux en amour. Il y en a heureux en amour. Des ardents, des distantes, des troublants, des marrantes. Heureux en amour. Des frissonneuses et des flatteurs, des patineuses et des tombeurs. Heureux en amour. Des esquimaux, des estivantes, des petites fesses et des gros ventres. Heureux en amour. Des polices montées, des chanteurs descendus. Il y en a, il y a des blondes qui sont pas du monde, qui lèvent le nez sur le bon monde et qui s'ennuient dans le grand monde dès qu'ils font leur adieu au monde. Des blondes choquées qui claquent la porte et qui font un saut au Maroc. Il y a des blondes qui aiment le monde parce qu'elles sont heureuses en amour. Il y en a, cachez-vous pas, heureux en amour. Des Lolitas et des grands-papas, heureux en amour. Des écolières, des ours en peluche, des grandes bourgeoises et des psychiatres, des veuves joyeuses et des perruches, heureux en amour. Des chauds lapins avec des allumeuses, des moutons noirs et des blanchisseuses, des rouges carottes et des vers de peur, des petits beaux-frères, des petites belles-sœurs, heureux en amour, des plongeurs et des hôtesses de l'air, des parachutistes avec des réceptionnistes, des grandes coquettes et des picassiettes, des pique-niqueuses et des hommes sandwich, heureux en amour, des spaghettis et des choucroutes, des majorettes et des boy scouts, des Sainte-Nitouches et des narcisses, des venus-pieds et des temples, heureux en amour, des motu vu avec des visionnaires, des pharmaciens avec des paquets de nerfs, des faces à claque et des boxeurs, des femmes à barbe et des raseurs, heureux en amour, des grognasses avec des blonds fadasses, des pots de colle avec des armoires à glace, des tennismen et des ballerines, des skieuses de fond et des motards flyés, des anarchistes avec des anesthésistes, heureux en amour, des belles de nuit et des parapluies.
Voilà, heureux en amour. Alexandra est heureuse avec ses fleurs. Alexandra Trujillo est toujours avec
en
nous.
En amour aussi.
En amour aussi. Oui. Alors, super. Pour la ferme florale, Alex à la campagne. Alexandra, j'ai vu que vous faisiez des abonnements floraux. Qu'est-ce que c'est?
Oui, en fait, c'est les gens, ils s'abonnent à mes fleurs, donc c'est un peu comme les paniers de légumes. Donc, ils payent en avance plusieurs bouquets, donc 5 ou 10. Puis, dans le fond, ils les reçoivent après chaque mois ou chaque 2 semaines de l'été.
C'est bien.
Donc, moi, ça me permet de vivre de ça l'hiver. Et puis aussi de planifier un peu ma culture, mes semences, etc., parce que je sais combien de fleurs je vais devoir vendre. Et les gens, en fait, ça leur fait des surprises après, à chaque 2 semaines au moins, ils reçoivent leur bouquet.
C'est ça, donc ils acceptent le bouquet du moment oui. sans en ayant la surprise, quoi, de ce qu'ils vont recevoir comme fleurs, comme couleurs, etc., ouais. C'est ça?
Oui, c'est ça. C'est sûr que je fais. Ils savent déjà un peu les fleurs vedettes, là, comme mettons, ils savent que le bouquet du mois de mai, il va y avoir des tulipes.
Oui.
Puis voient en juin, tout ça. Mais c'est tout. Après, le reste, c'est des surprises parce que ça dépend vraiment de la météo et des aléas de la nature. Mais ils ont leurs fleurs vedettes à chaque fois et c'est moi qui décide les couleurs et tout. Mais oui, ça fait la petite surprise. Donc, il faut aimer les fleurs, il faut aimer la surprise. Il ne faut pas vouloir juste tout le temps la même fleur.
Oui.
Mais apparemment, ça fonctionne très bien. J'ai de plus en plus d'abonnés à chaque année. Là, donc,
c'est bien. C'est aussi l'apprentissage d'accepter qu'il y ait des saisons et d'accepter ce qui se passe saison par saison. Voilà.
Oui. Mais c'est ça. Là, une fois que les gens ils comprennent vraiment ça, c'est magique. C'est vraiment beau. Puis la tulipe, c'est ça, surtout au printemps, après des longs mois d'hiver. Mais là, il y a la tulipe qui arrive et les gens, ils sont tellement contents. Mais si le monde achète de la tulipe de Hollande ou d'ailleurs tout l'hiver, ben, il n'y a pas cette petite excitation là, du mois de mai là, que la belle grosse tulipe du Québec est
oui.
là.
Oui, c'est sûr. Et vous faites aussi des formations ateliers à la ferme?
Oui, voilà. Ça, c'était ma petite nouveauté de cette année. J'ai fait plusieurs sessions là au printemps puis cet été. Là, j'ai fait une petite pause parce que j'étais très occupée avec les mariages, mais j'ai recommencé à l'automne. Mais en gros, il y avait vraiment un engouement là avec la pandémie encore une fois, que les gens se sont tournés vers leur jardin, ils ont voulu cultiver un peu plus leurs fleurs. Donc j'ai voulu partager un peu mes connaissances vu que ça fait quand même plusieurs années là que je cultive mes fleurs et mon potager aussi et tout ça. Fait que c'est y a plusieurs formules là, soit des petits ateliers rapides où je fais une introduction, soit des journées complètes où là on passe vraiment toute une journée à parler de fleurs. Et puis, j'ai aussi des ateliers plus de création aussi, comment faire un bouquet, comment faire un centre de table pour la maison. Donc, les gens, ils aiment beaucoup ça. Là, ça
ben oui.
Oui, il y a eu beaucoup de succès. Là. J'ai beaucoup aimé rencontrer les gens aussi parce que je rencontre pas trop les personnes, moi, dans la manière que je fonctionne.
Oui.
Vu que ça se passe beaucoup sur Internet, la vente, les médias sociaux. Et là, j'avais vraiment les gens face à moi et c'était très intéressant de voir d'autres passionnés de fleurs aussi.
Dans le jardin, oui, ça devait être un sacré beau moment.
Oui.
Dans les quelques minutes qui nous restent à bavarder, on va revenir un petit peu sur vous. Vous étiez quand même rédactrice formatrice marketing avant de devenir fermière fleuriste. Donc, ça change du tout au tout quand même.
Oui, oui, ben, ça a été un gros changement. Oui, j'étais vraiment travail de bureau pendant pratiquement 10 ans. Donc, j'ai vraiment étudié en communication et en littérature avant ça. Et puis, mais j'étais vraiment, j'avais plus de plaisir dans mon travail. Mmh. Et surtout, j'aimais pas le concept d'être assise toute la journée. Je trouvais ça très, très lourd, l'ordinateur.
Oui, je vous comprends.
Ouais.
Donc, vous avez, d'après ce que je lis sur vous, vous avez décidé de vous inscrire comme ça, sur un coup de tête, à un atelier de création de bouquets au Jardin botanique de Montréal.
Oui, c'est ça. Fait que j'habitais à Hochelaga, donc vraiment juste à côté du Jardin botanique, et je faisais partie des amis du jardin. Et là, j'avais eu une grosse semaine au travail, j'étais un peu tannée, puis je me suis dit, non, là, je m'inscris
j'ai besoin de voir les fleurs.
Ouais, j'ai besoin de créer quelque chose, mais qui n'est pas avec l'ordi, qui n'est pas avec un bureau. Donc là, c'est ça. Et ça a été une révélation parce que la personne pendant le cours a apporté des fleurs de son jardin pour donner le cours de création de bouquets. Puis à l'époque, là, c'était vraiment personne faisait ça. Là.
Oui.
Elle avait des pivoines de son jardin, des petites fleurs de printemps. Et là, j'ai tellement aimé et adoré. Puis j'ai compris que c'était ça là, que j'aimais.
Quand vous y êtes allé, je vous coupe 2 secondes, mais vous connaissiez rien. Vous aimiez les fleurs, mais vous saviez pas.
C'est ça, l'amour, puis le fait que quand j'avais été jeune, je voulais devenir fleuriste, puis j'avais un amour vraiment pour les fleurs, oui. Hein, puis je vivais tout le temps un peu sur mon balcon, mais je connaissais rien. Je n'avais jamais fait un bouquet ou quelque chose comme ça.
Ah oui.
J'ai beaucoup aimé ça, et après, ben, j'ai décidé de pousser un peu plus. Puis ça a donné qu'on a déménagé à la campagne. Donc, j'ai commencé à avoir le terrain de jeu là, pour faire grandir mes projets. Mais c'est venu tout en même temps. Là. Le fait d'avoir un jardin, le fait que j'avais commencé à suivre des cours de création florale, tout ça s'est mixé ensemble. Et ça a donné mon projet. Là.
Ben, c'est formidable. Je trouve ça formidable, en tout cas, hein, de vivre de sa passion. Parce que ça a dû commencer, je présume que vous avez commencé avec un terrain qui était quand même moyen. Et puis qu'après, il a fallu l'agrandir.
Oui, non, j'ai tout de suite eu quand même le grand terrain, en fait.
Ah, c'est d'accord.
On a déménagé à la campagne il y a 4 ans. Il y avait l'accès à la propriété, à la campagne était encore quand même facile. Et puis, on a eu un beau, on a trouvé une belle, jolie petite maison, mais un grand terrain. Mais il y avait quelques vivaces déjà, des fleurs qui reviennent chaque année, mais c'était tout. Donc, on a travaillé fort là, les 2 premières années pour agrandir la surface de culture parce que c'était juste du gazon, là, finalement.
Oui.
Voilà. Fait que, mais ça, c'est pas très grand. Il faut vraiment pas une grande surface pour cultiver des fleurs parce que les fleurs que je cultive, c'est des fleurs qui reviennent constamment. À chaque fois que je les coupe, il y en a des nouvelles qui repoussent. Donc, les gens sont souvent étonnés là, de voir à quel point j'ai pas des hectares. Là.
Oui, moi aussi, j'étais comme ça. Je m'attendais à ce que vous me disiez que vous êtes partie d'un petit terrain, que vous en avez pris un très grand après.
Non, c'est ça. Fait que je connais quelques personnes même qui cultivent leurs fleurs en ville puis qui arrivent quand même à se fournir pour leurs bouquets. Fait que c'est des annuels qu'on dit qui sont des fleurs à couper. Donc, ça... C'est vraiment, ça repousse chaque 2 jours, j'ai une nouvelle fleur. Donc, il faut très peu d'espace. Fait que c'est le bon côté par rapport aux légumes, à la culture de légumes, que là, il faut quand même beaucoup d'espace pour avoir beaucoup de légumes. Là. Donc, j'utilise aussi beaucoup de fleurs sauvages tout autour de ma maison qui pousse librement. Donc, ça agrandit aussi là, mon terrain de jeu, finalement, pour les fleurs.
Eh bien, écoutez, laissez-moi vous dire à Alexandra que vous êtes passionnante et passionnée, donc merci pour tout ça. Comment on vous retrouve? Alors, on tape ferme florale, Alex à la campagne?
Oui, mais même juste Alex à la campagne, je pense que je suis facilement trouvable parce qu'il n'y a pas d'autres qui s'appellent pareil. Ou ferme florale Magog, atelier floral Magog aussi, je sors quand même très facilement. Tous les médias sociaux ou mon site web, là, toutes les infos sont là.
Quand c'est beau l'été, on peut venir toquer à votre porte pour voir votre jardin?
Non, malheureusement, c'est sur rendez-vous ou les ateliers. C'est à ça aussi que ça sert. Les gens peuvent venir visiter mon jardin. Oui. Parce que sinon, c'est compliqué pour moi.
Je comprends.
Oui.
Mais en tout cas, écoutez, est-ce qu'on a fait le tour? de tout ce que vous faites?
Moi, je pourrais en parler pendant...
Oui, je sais que vous pourriez en parler pendant des heures, mais j'ai plus assez de temps, malheureusement.
Oui, non, mais...
Mais je crois que vous nous avez...
Vous avez,
vous nous avez communiqué votre passion. En tout cas, dorénavant, en ce qui me concerne, je regarderai les fleurs autrement et j'écouterai aussi les saisons un petit peu plus. Voilà.
Ok, ben, je suis très contente d'avoir sensibilisé à ça au moins.
Rien que pour ça, ben, merci beaucoup Alexandra. Oui. Et puis, bonne continuation pour vous dans votre métier. Et puis, vraiment, que tout le monde puisse aller vous voir. Vous entendre, participer, apprendre aussi quelles sont les fleurs qui arrivent et comment l'histoire, parce qu'il y a une histoire sur chaque fleur aussi.
Oui. Merci de m'avoir invité, c'est très agréable.
Merci beaucoup Alexandra, au revoir, bonne continuation. On vient d'écouter Samiane qui nous chantait Nikamo. Et maintenant, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, merci Maurice Bolduc pour la technique et puis pour les musiques. Merci à Denis Martin Chabot et à Alexandra Truchot. C'était vraiment très intéressant de finir comme ça sur les fleurs. C'était beau. J'espère que vous avez apprécié aussi. Merci à vous toutes et vous tous. Et puis, on se dit à demain pour une nouvelle émission. Au revoir, à bientôt.